Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non.
Les fantasmes. Alors ça fait, je pense, maintenant 2 ans qu'avec Carole, nous n'arrêtons plus de parler des fantasmes. On aime vraiment trop en parler. Les explorer, les laisser venir en nous, les accompagner, les partager ou les garder pour soi. On va encore parler de fantasmes aujourd'hui et pour ça, on reçoit bien sûr Annabelle Lee, qui est exploratrice de fantasmes et accompagnatrice de l'intime. Bienvenue Annabelle Lee.
Merci Laura, bonjour Carole, je suis ravie d'être là avec vous et ravie aussi d'entendre que vous cheminez avec les auditeurs du podcast déjà depuis longtemps sur les voies de la découverte de soi et de son univers érotique personnel. Et donc c'est un grand grand plaisir de cheminer un petit peu avec vous aujourd'hui dans ces territoires qui sont parfois inquiétants, parfois mal connus, parfois touffus. Mm-hmm. Hein, on a presque l'impression de rentrer dans la forêt de Dante, mais c'est comme la forêt de Dante, un chemin vers soi-même et une voie d'exploration intime qui enrichit votre vie et qui moi ne cesse de m'étonner malgré toutes les personnes que je rencontre et avec qui je partage des fantasmes.
Bah en tout cas, on est ravis, Annabelle, de t'avoir avec nous. Tu nous viens tout droit de la Belgique. Tu as pris le train ce matin?
Oui, tout à fait. J'ai pris le train depuis Bruxelles, où je vis, pour venir vous rencontrer. Et c'est encore une fois un immense plaisir. Et puis, c'est peut-être pas un hasard non plus que je vienne de Belgique, puisque la Belgique, c'est une terre de rencontres, de mixité, où se côtoient les cultures latines et germaniques. Et donc, c'est un espèce de creuset culturel comme ça qui est très prolixe à l'exploration de l'imaginaire. Et aussi très détendu, ou peut-être un peu plus détendu que le sud de l'Europe, on peut le dire, en matière de sexualité. Et donc tout ça fait un cocktail qui est très propice à l'exploration de ces voies de cheminement les plus intimes.
Alors avant que tu nous expliques justement en quoi consiste ce métier, ce métier passion d'exploratrice de fantasmes, Carole, comment tu as découvert Annabelle Lee?
Par un contact.
C'était une rencontre. En fait, on en revient toujours au même sujet.
Toujours la même rencontre. Et c'est surtout que on a commencé à faire un zoom. Puisque
temps de Covid. Hein,
temps de Covid, voilà. Et autres. Et puis, on ne s'est plus arrêté de parler. Donc, ça a duré très longtemps, notre zoom.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on une matinée.
On avait plein de choses à se dire, malgré que c'était la première fois qu'on se voyait. Et puis, évidemment...
Et puis, on s'est rencontrés très vite. Voilà. Parce qu'on a eu envie de se voir en vrai, parce que le virtuel, c'est bien, mais pouvoir échanger, c'est encore mieux. Et là aussi, on a continué à parler.
On a continué à parler. Et puis, il y avait les fantasmes. Tu sais que moi, les fantasmes, c'est quelque chose qui me...
Tout à fait, Carole.
Depuis que je te connais, où j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps avec mes patients. Même si on avait déjà fait un podcast sur les fantasmes, mais là, c'était une autre approche, une autre dimension. Et c'est pour ça que le sujet me paraissait important. Et puis... Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu sais, moi, j'ai fait ma formation de sexo en Belgique. Et que ce pays m'a toujours intéressée, intriguée sur cette liberté vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de cette approche qui est différente de ce qu'on a en France. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais que Annabelle soit notre micro pour encore davantage explorer les fantasmes, pour que chaque auditeur se rende compte qu'en fait, c'est quelque chose qui va vraiment parler de nous, qui est vraiment sur notre intimité, puisque je vais dire que 90% de ma patientèle, quand je parle de fantasmes, ils disent « Bon, c'est quoi ça? J'en ai pas. » Voilà, il y a toutes ces questions encore taboues sur le fantasme.
Alors, Annabelle Lee, maintenant... qu'on a un peu le contexte de cette rencontre. Mais qu'est-ce que c'est qu'être exploratrice de fantasmes? et accompagnatrice de l'intime.
Mais déjà, comme tu le soulignais, d'abord, c'est une passion. Forcément, c'est pas un métier qu'on apprend sur les bancs de la fac. Mm-hmm. Sur les bancs de la fac, j'ai fait des choses vraiment beaucoup plus classiques. Mais c'est une cet appel à explorer les voies les plus singulières de la sexualité, ça chemine avec moi vraiment, j'ai presque envie de dire depuis toujours, depuis que j'ai eu accès au rayon adulte de la bibliothèque catholique de mon quartier quand j'avais 13 ou 15 ans. Je suis vraiment fascinée par la question de la réalisation de soi dans le désir, dans le plaisir. Et quand on ouvre, quand on pose un regard érotique sur le monde, on se rend compte que cette pulsion de vie qu'est la libido, cette érotisation de l'environnement, il est partout. Alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler de manière négative, parce qu'on sait aujourd'hui que justement, quand on impose sa propre libido aux autres, parfois c'est de trop, c'est dérangeant, et il faut pouvoir poser les limites totalement inconditionnelles du respect et de l'individualité de l'autre. Mais quand on accepte de se laisser aussi guider par cet appel de l'inconscient, cet appel de la créativité aussi, eh bien, on découvre une dimension supplémentaire dans notre vie. Une dimension que, en effet, toute notre éducation et toute la société autour de nous nous apprend à enfouir, à réfréner. La libido, c'est vraiment le pouvoir de ces anciennes divinités païennes que Michelet décrit dans son ouvrage La sorcière, en disant, voilà, le grand Pan est mort. Maintenant, les divinités et leur connexion à l'inconscient sont morts, arrive la religion chrétienne, religion rationnelle, religion de l'ordre, la culture romaine également, et son ordre familial bien connu dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et donc ça fait 2000 ans qu'on nous apprend à gommer toute cette connexion à l'inconscient et à la créativité et à la pulsion de vie que représente la sexualité. Et donc moi, tout mon travail, c'est de réconcilier mes clients. Ce ne sont pas des patients, parce que contrairement à Carole qui est sexologue, je ne reçois pas des personnes qui ont des problèmes physiologiques ou psychologiques. Bien sûr, dans les métiers de l'accompagnement, la psychologie n'est jamais loin. Mais mon travail, c'est surtout de guider les personnes, de les aider à se réconcilier avec cette part d'elles-mêmes, de se laisser parfois déborder par ses sensations, ses intuitions, ses rêves, ses connexions profondes, à les accepter, à savoir les reconnaître aussi. Parce que c'est vraiment la question à 1000 points des magazines féminins. Quand on vous dit, voilà, organisez une belle petite soirée avec votre amoureux et lâchez-vous, réalisez tous vos fantasmes. En général, l'article se termine comme ça et on se dit, ah, hein, des fantasmes, mais quel fantasme ? Moi, je n'ai pas de fantasme. Et c'est ce que dit Carole aussi par rapport à la pratique de sa patientèle. En fait, les fantasmes, c'est comme Monsieur Jourdain avec la prose, hein, qui en fait sans le savoir, et des fantasmes, on en a tous. Le tout, c'est de les reconnaître en soi, c'est de les accepter, c'est de les rencontrer, c'est de les cultiver, et ça, c'est vraiment le cœur de mon travail d'accompagnement.
Et alors, c'est peut-être ça, justement, la grande question, c'est comment est-ce qu'on libère, je dirais peut-être même, libère ces fantasmes. Qu'est-ce qui fait qu'on en a besoin ? Peut-être ça, en fait, la vraie question. Quel est le moment où on réalise, ah bah j'en ai besoin pour être dans ma sexualité ? Finalement, je ne peux plus faire de la sexualité avec moi ou avec les autres sans fantasme. Comment ça se passe à ce niveau-là ?
Laura, on va reposer la libido.
Ok.
D'accord ? Parce que la libido, c'est notre énergie de vie. D'accord ? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en vie, on se déplace, on fait des choses, on travaille, d'accord ? C'est que tant que nos chakras sont pas coincés, donc et notre premier chakra, qui est notre chakra sacré, et notre chakra de la sexualité, c'est fait que nous sommes en vie. D'accord, c'est ça la libido. Et après, il y a l'appétit sexuel, qui est encore autre chose. Mm-hmm. Et l'appétit sexuel, c'est ce qui fait aussi qu'on va chercher du plaisir à travers notre sexualité, qu'on soit seul ou accompagné, et que toutes ces deux énergies doivent être connectées. D'accord ? Parce qu'on parle toujours que de la libido, mais la pulsion sexuelle, notre énergie sexuelle, notre appétit sexuel, c'est ce qui se travaille aussi grâce à nos fantasmes. D'accord ? Et c'est ça qu'on va explorer dans notre intimité, d'aller chercher qu'est-ce qui va aller nourrir mon appétit sexuel, puisqu'on sait que si on a de la sexualité régulière, on gagne 20% de productivité en plus, d'efficacité, mais c'est qu'aussi on met toutes nos bonnes hormones dans notre corps de bien-être, et que ça on a besoin pour avoir la banane tous les jours, quoi.
La sexualité, c'est une cure de longévité, de vitamines, ça vaut une pratique sportive régulière, hein. Sur un plan strictement physiologique, les gens qui ne courent pas, mais qui font l'amour 3 ou 4 fois par semaine, ils ont un cœur exactement en même forme que ceux qui font du jogging au même rythme.
C'est une info à savoir.
Oui.
Tout à fait.
On parle la même langue, en fait.
Et on pratique la même activité sportive.
et donc ça c'est important, parce que quand on parle, effectivement, quand les gens sont en panne érectile, n'ont pas de lubrification, n'ont pas d'envie et tout ça, c'est parce qu'ils manquent crucialement de fantasmes, parce que effectivement les fantasmes, ça veut dire mais qui je suis exactement, qu'est-ce qui va se mettre, et que si je me suis conditionnée dans la sexualité, c'est comme ça parce que on sait pas ce que c'est, ou c'est, et j'ose pas faire appel à mes fantasmes, parce que si je suis une femme, peut-être que on va me dire que je suis une salope. Et que non, en fait, j'ai juste envie de prendre du plaisir dans ma sexualité, et on a toujours peur du jugement. Toujours dans sa sexualité. Donc, c'est comment on va explorer. Et effectivement, la question d'après, c'est comment on va libérer ou s'autoriser à libérer ses fantasmes.
Oui, et je compléterai ce que vient de dire Carole en citant Esther Perel, la grande spécialiste belgo-américaine de l'imaginaire érotique, qui dit que une crise du désir est d'abord une crise de l'imagination. Donc ces mots désir et imagination sont effectivement étroitement corrélés, mais en effet, on ne sait pas toujours. Enfin, le plus compliqué, c'est de faire le premier pas, clairement, comme sur toutes les voies initiatiques. Comme sur tous les cheminements où une expérience va en amener une autre, va être un chemin de transformation, et où quand on se met en mouvement, en général, on ne s'arrête plus. Le plus compliqué, c'est en effet de savoir par où commencer. Surtout que, comme le dit Carole, c'est très intimidant. Parce que même si on ne partage pas ces fantasmes avec d'autres, même si on ne les garde que pour soi, il y a clairement toujours cet auto-jugement. Carole prenait l'exemple d'une femme qui a peut-être des envies qui vont la faire passer pour une salope. Je ne sais pas, moi, une fille qui aurait envie justement de sortir dans un endroit où elle va pouvoir faire l'amour avec 10 garçons sans même connaître leur nom, et dans toutes les positions possibles, et juste pour le plaisir comme ça de s'y immergé dans la chair, on peut tout à fait imaginer les jugements que pourrait porter, ou bien par exemple son partenaire habituel, si elle lui dit « Tiens chérie, j'ai envie d'eux », ou même elle-même, est-ce qu'elle va oser le formuler ? Mais ça peut très bien être aussi un homme qui se trouve beau dans les sous-vêtements de sa femme, et qui aimerait bien avancer dans ce cheminement-là, qui se trouve à qui cette apparence féminisée, par exemple, renvoie une certaine excitation, qui a envie de jouer avec les codes du genre. On peut imaginer exactement le même jugement, à se dire tiens, est-ce qu'il va oser parler à sa compagne de l'idée qu'il a envie d'aller faire du shopping dans des boutiques de lingerie, pas pour elle, mais pour lui. Donc ce sont toutes ces idées qui peuvent parfois surgir. Et j'ai envie de dire, c'est déjà super si la personne a ces fulgurances, si la personne est connectée à ces envies-là, si y a déjà même suffisamment donc, de puissance à cet imaginaire pour qu'il se manifeste de manière formulée.
Parce qu'il y a des personnes où ça n'est pas du tout le cas.
Mais tout à fait. Et je crois que c'est la majorité d'ailleurs des personnes qui se posent des questions sur, les, sur leur sexualité. C'est à ce stade-là qu'elles se retrouvent vraiment au point zéro de leur cheminement. C'est qu'en effet, peut-être qu'elles ont eu une sexualité, on va dire, socialement convenue. Mm-hmm. Donc, elles ont rencontré un partenaire à la fin de l'adolescence, qu'elles ont tâtonné avec lui ou avec plusieurs peut-être, et que donc elles ont peut-être une bonne maîtrise déjà de la gymnastique de l'amour, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'elles se connaissent, qu'elles savent comment, comment se faire jouir et comment faire jouir l'autre, qu'elles ont testé un certain nombre de pratiques et qu'elles savent un peu ce qu'elles aiment ou pas. Mais que cette sexualité-là, bah, elle va peut-être s'exprimer après pendant quelques années, dans le cadre d'une relation amoureuse. Elle va peut-être être un peu intensifiée quand tu auras une envie de bébé. Elle va être souvent complètement balayée, et ça, la sexologue en parlerait mieux que moi, avec cette espèce de tsunami de maternité et de petite enfance. Et puis, une fois que les os se sont retirés, eh bien, il reste des individus qui vont devoir retrouver peut-être un sens à leur vie sexuelle, mais qui n'ont pas envie de faire ce qu'ils pratiquent déjà depuis 10 ans, hein, comme s'ils allaient toutes les semaines au tennis et qu'ils étaient des super praticiens du tennis, mais qu'à un moment, ils ont peut-être envie de se lancer et de faire de la compète, par exemple. Et là, se pose la question de se dire, mais dans le fond, qu'est-ce qui pourrait, selon cette autre expression consacrée des magazines féminins, pimenter ma vie sexuelle ? Moi, je n'aime pas cette expression parce que, oui, ouais. Voilà, parce que pour moi, ça n'est pas juste un petit ingrédient qu'on rajoute à un plat qui est déjà connu.
C'est la base du
voilà,
plat.
Voilà, c'est au, exactement, au contraire, c'est réinventer sa cuisine. Moi, j'aime bien de dire que l'érotisme est à la sexualité, ce que la gastronomie est à la cuisine. Il ne s'agit pas tant de calmer la faim que de réinventer le plaisir. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand on dit aux candidats de Top Chef, allez-y, revisitez-moi les chicons gratins, quoi. Non, pardon, les endives roulées au fromage. Pardon. Et donc, là, il faut un moment, en effet. Je pense que le premier temps de cette exploration, c'est d'abord de s'observer. Et c'est d'abord déjà de savoir ce qui nous attire, ce qui nous fait plaisir, et aussi ce qui nous inquiète ou ce qui nous dégoûte. Parce que je trouve que, d'ailleurs ça vaut pour la gastronomie aussi, c'est aussi intéressant d'explorer ce qui nous fait peur ou ce qui nous dégoûte, ou qui nous, voilà, qui nous met un petit peu mal à l'aise, que ce qui serait dans notre zone de confort. Parce que c'est parfois du côté, effectivement, de ces choses un petit peu plus inquiétantes que peuvent se trouver des expérimentations, ouais. Voilà, ou des, de pouvoir dépasser des peurs, ou de pouvoir passer des caps qu'on va trouver, du coup, beaucoup plus... Enfin, qui vont nous faire, qui vont nous apprendre des choses sur nous-mêmes qui seront peut-être plus percutantes que d'aller vers des choses qui sont dans notre zone de confort.
Alors comment ça se passe justement quand tu expliquais donc que tu avais des clients et non des patients, parce que tu ne prends pas ce rôle-là de psychologue ou de soigner quelque chose qui ne fonctionne pas, un dysfonctionnement. Comment est-ce que ça se passe? Les personnes viennent te voir avec une problématique en particulier. Tu les suis sur plusieurs mois, sur une année, sur est-ce que en 2 séances c'est enfin réglé? Rien n'est jamais réglé, c'est toujours comme tu dis, un récit initiatique, un voyage initiatique, donc ça ne se termine jamais. Mais comment se passent en fait ces séances avec les personnes que tu accompagnes ?
Alors, il y a deux types de pratiques. Il y a effectivement les personnes qui viennent me voir déjà parce qu'elles ont simplement envie de poser les choses et peut-être d'avoir juste... le petit pied à l'étrier ou la petite tape sur l'épaule qui va faire qu'elles vont qu'elles vont sauter le pas ou qui viennent parce que c'est un peu leur petite bulle, leur moment à eux de parler de choses avec qui qu'ils ne peuvent partager avec personne d'autre. justement une attraction pour une personne qui est totalement inaccessible, ou entend trop parler de milieux ou d'expériences qu'on n'oserait jamais ou qu'on n'a pas l'intention de fréquenter. Pour certains, cette petite plongée dans cette ouverture à l'univers érotique, j'ai envie de dire, est déjà suffisante pour les mettre en mouvement. Et puis ces entretiens, moi, je ne les mène pas toujours de manière conventionnelle dans un cabinet. Je veux dire, la liberté et la beauté de ma pratique, c'est aussi qu'on peut faire ça plutôt, je ne sais pas moi, dans une chambre d'hôtel en petite tenue que dans un cabinet assis dans un fauteuil. Donc il peut y avoir aussi une très légère entrebâillement de porte vers un univers sensuel, sans pour autant que les personnes, par exemple, si elles sont engagées en couple et qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec le fait d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre que leur partenaire, ben vivent quand même une toute petite expérience légèrement transgressive, mais qu'elles puissent quand même regarder leur partenaire dans les yeux en disant non, voilà, je ne te trompe pas, il n'y a personne d'autre, parce qu'il n'y a personne d'autre, simplement on sera dans un contexte peut-être légèrement plus excitant que dans un contexte strictement avec les codes de l'univers du traitement médical. Donc ça, c'est un type de rendez-vous, c'est des rendez-vous qui sont plutôt conversationnels. Et puis, bien souvent, soit après quelques rendez-vous conversationnels ou même directement, les gens viennent directement voir pour ça. La caractéristique de ma pratique, c'est qu'elle est plutôt axée sur le coaching et donc sur l'expérience transformatrice. Donc pour moi, c'est très important que les gens vivent des expériences. Et donc, je les accompagne ou je facilite ces expériences.
D'accord.
Et donc, c'est vrai que je mets la main à la pâte, comme on pourrait dire. Et en ce sens, j'aime bien le double sens qu'il y a dans le mot « escorte », parce que l'escorting, c'est l'accompagnement. Et donc, en effet, ma pratique peut consister aussi à accompagner les personnes dans leurs expériences, à leur proposer des scénarios qui leur conviennent, à tester dans un cadre sécurisé sans qu'elles doivent justement errer dans un univers un petit peu inquiétant pour trouver une personne avec qui elles vont tester telle ou telle chose. Et les choses en question, ça peut être très, très varié, hein. Ça peut être tout simplement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je pense par exemple à des techniques ou des pratiques qui sont relativement anodines mais relativement taboues, comme tout ce qui est urologie, comme on dit. Donc Golden Shower, je crois que l'image parle d'elle-même. Et donc ça, c'est le genre de pratique dont on pourrait se dire oui, ça pourrait aller de soi, et où ça ne va pas de soi, et où donc on peut tester des pratiques comme celle-là. Ça peut être des techniques qui sont plutôt de l'univers fétichiste. Presque tout le monde aura sans doute entendu parler aujourd'hui du shibari, parce que c'est très à la mode.
Bien sûr.
Cet art du bondage traditionnel japonais.
On avait reçu justement l'école des cordes
voilà.
Il y a quelques mois.
Voilà, et ça, c'est une pratique qui est un peu à la frontière du yoga, des arts martiaux, et d'une pratique qui peut avoir une dimension érotique, puisque on se retrouve avec une personne qui est immobilisée dans les positions que décide son encordeur. Et donc, il peut y avoir une dimension érotique au shibari. Et donc, quelqu'un qui viendrait me trouver en me disant « Voilà, j'ai envie de tester ça avec mon partenaire. Est-ce que vous pouvez m'orienter ?» Ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut être parfois beaucoup plus précis, des personnes qui ont des idées de choses qu'elles veulent vivre, mais qui ont besoin de quelqu'un d'autre pour les pratiquer et les réaliser. Et, pardon, excuse-moi Carole, je suis toujours très bavarde. Et ce que je veux rajouter, c'est juste de dire que pour moi, il doit y avoir toujours une dimension d'apprentissage et d'émancipation. Ça doit amener la personne à cheminer. C'est vrai que d'ailleurs, en général, les touristes ne restent pas chez moi. Il y a beaucoup de curiosité, mais en général, comme je demande quand même à la personne de se mettre en mouvement et de s'investir, ne restent et ne vont au bout de l'expérience que les personnes pour qui c'est vraiment un enjeu existentiel, on va dire, et pas juste du shopping, comme on dirait au Love Shop, s'acheter un jouet ou un déguisement.
Tu voulais réagir là-dessus, Carole, justement.
Oui, parce que sur les consultations, c'est que les gens viennent toujours dire j'ai ça comme fantasme, mais c'est mal, ou comment je peux faire pour réaliser ça, ou moi je parle souvent dans ma conférence du libertinage et que les gens disent, les gens rigolent beaucoup, mais personne ne connaît les codes. Donc à un moment donné, on vient exprimer les codes.
Exactement.
Voilà, moi je peux exprimer les codes, mais je ne vais pas avec mes patients faire vivre l'expérience, parce que ça se fait pas en France déjà, puis c'est pas éthique, et voilà. Mais en tout cas, les gens ont besoin de parler de tout ça, les gens ont besoin de toujours chercher dans la sexualité, c'est bien, c'est mal. Il n'y a pas c'est bien, c'est mal, c'est qu'est-ce que tu vois, tu vas explorer, et qu'est-ce qui va parler de toi, et qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre, et de voir qu'est-ce qui t'excite. Parce que, effectivement, au bout d'un moment, depuis 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble, il faut qu'à un moment donné, on réinvente, on reconstruise notre vie sexuelle pour retrouver du plaisir, mais on change. L'être humain change, donc on a toujours besoin de se dire, mais qu'est-ce que je suis devenue, quoi.
Pour revenir sur cette question de la norme, il y a une petite, ça me fait penser à une petite phrase d'un autre grand penseur de notre temps, Morticia Adams, qui dit à un moment dans un des films, la normalité, c'est une illusion. Ce qui est normal pour l'araignée ne l'est pas pour le papillon. Et donc, c'est aussi questionner avec les personnes qu'on rencontre cette question justement de la normalité.
Qui ne doit pas être évidente justement pour des personnes qui sont en relation, puisque les fantasmes qu'une personne peut avoir sont, comme tu viens de le dire, sont complètement différents des fantasmes que la partenaire a. Mmh.
Oui, et même si on incite, les gens à discuter de leurs fantasmes, à communiquer, il y a toujours cette peur du jugement qui va arriver, qui, mais non, l'autre va pas me comprendre, l'autre n'a pas en capacité, parce qu'on suppose que l'autre n'évolue pas, qu'on l'a rencontré un instant T, puis qu'après il n'évolue pas. Donc, comment on met tout ça en scène? En fait, c'est des mises en scène, et que je pense que quand la personne a un peu le courage, je mettrais ce mot-là, d'Alex.
Ah, tout à fait, je crois qu'il y a une question d'investissement à un moment, ouais. de prise en main, d'empowerment de son destin sexuel, clairement.
Voilà, c'est ça. C'est quand on va chercher ça, et ben on va aussi voir quelque chose de différent de soi, et qui est à la découverte, un peu comme on avait discuté avec Axel sur son intimité.
Bien sûr.
On va à la découverte de qui on est vraiment.
Tout à fait. Et pour moi, un couple, pour reprendre l'idée du couple, qui aurait justement peut-être réussi son cheminement sexuel, ce serait justement un couple qui aurait réussi à maintenir ce dialogue sur l'identité profonde de chacun, dans lequel chacun des deux membres du couple serait parvenu au bout justement de 10 ans, 15 ans, 20 ans de dialogue à se connaître vraiment intimement et à être capable d'exprimer ses attentes personnelles. Et en effet, ça peut peut-être amener à ce que chacun ait des attentes qui soient différentes et même fort probablement, et donc arriver à cette maturité que chacun puisse vivre ce qu'il a envie de vivre ensemble et séparément.
C'est ça.
Et pour moi, ce serait peut-être ça mon modèle idéal d'évolution. Et en tous les cas, quand je rencontre des clients qui sont en couple, c'est souvent un des deux membres du couple qui me consulte, mais le membre qui est absent est aussi présent dans nos conversations. Je ne vais jamais oblitérer justement cette dimension de relation et toujours ramener la personne aussi, la coacher aussi dans l'ouverture à l'autre, comme le disait Carole, dans le fait de pouvoir se présenter, s'expliquer progressivement. Hein. On ne passe pas de 0 à 100 en 7 secondes dans ce genre de sujet, mais y aller par petits pas pour que la transformation, en effet, se passe chez les deux.
Et arrêter de croire justement que la transformation va forcément aller à deux. En fait, si on regarde juste les choses comme elles sont, ça paraît juste impensable que quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne comme ça, une enfance qui a été comme ça, un environnement, un contexte, commence tout ceci peut être complètement en fusion ou en adéquation avec une personne qui a toutes ces choses-là, mais différemment. C'est improbable.
Bien sûr.
À ce moment-là, c'est bien justement de remettre ça dans l'ordre des choses et de se dire, oui, on peut être en couple, on peut partager la sexualité, mais il y a plein de choses qu'on ne partagera pas et ça ne veut pas dire qu'on ne partage rien.
Exactement. Et c'est une, je trouve, une belle preuve d'amour et une belle maturité amoureuse que d'être capable de laisser chaque membre du couple vivre ce qu'il a besoin de vivre à titre individuel également. Et ça ne veut pas dire, parfois, ne pas inviter l'autre dans son univers aussi. Je pense que, par exemple, un membre du couple qui aurait qui serait attiré par les jeux de domination, par exemple, eh bien, il peut très bien vivre ça de manière intense avec une autre personne qui serait son partenaire, avec qui il aurait une relation intense de domination, mais parfois demander à son partenaire de vie, tiens, dans tel contexte, est-ce que tu serais d'accord de me mettre au défi de telle ou telle chose, ou que moi je te fasse telle ou telle chose, dans les limites évidemment du partenaire concerné aussi, mais en bien entendu, mais en l'aidant justement peut-être à lui-même aller un petit peu plus loin, à vivre des expériences pour mieux comprendre l'autre personne, à lui aussi accepter de se laisser de rester ouvert à l'univers de l'autre. Ça, et c'est pas toujours évident, hein, évidemment, parce que...
Mais c'est pas évident, parce que ce qui nous empêche, c'est la fameuse fidélité. C'est la bonne question. C'est parce qu'on n'a pas défini dans le couple c'était quoi la fidélité.
Tout à fait.
Et que la fidélité, elle a toujours été nommée par le cinéma, où il y a toujours eu ces relations extra-conjugales, et que... ou par toutes les religions, quoi. C'est quoi? Est-ce qu'on est fidèle? On est loyal avec la personne avec qui on a envie de construire quelque chose, et que aussi dans cette partie de sexualité, parce que c'est toujours ça, les gens ont envie de vivre quelque chose, mais se disent, si je vis, je trompe. Non, si je vis ça à côté, mes pratiques, par exemple BDSM, je vais explorer une partie de moi.
Qui est fidèle à moi-même.
Qui est fidèle à moi-même. Et pour autant, la personne avec qui je suis en couple, je suis très... loyale, où je partage beaucoup de choses, des valeurs, que ça, on ne travaille pas assez sur les valeurs dans le couple, je partage des valeurs, je partage je rigole bien avec cette personne, mais pour autant, pour être un être entier, j'ai besoin des deux. Mais je ne suis pas infidèle, je suis moi.
Je ne dirais pas je trompe, je dirais j'enrichis. Oui. Je ne trompe pas l'autre, mais j'enrichis notre relation commune. Des pratiques que je vais vivre et de l'expérience de vie que je vais en retirer. Et c'est vrai que cette question de la fidélité, c'est un piège terrible, parce que c'est en effet la consultation statistiquement la plus classique, qui est de dire, un des deux membres du couple dit « Ah, moi j'ai envie de tester le libertinage ». C'est un petit peu comme quand on va chez le psychologue en disant « J'ai des problèmes de communication ». Tout revient, enfin tout finit par se rapporter à cette question, comme l'a expliqué Carole, de la loyauté, qu'est-ce que ça signifie pour ce couple-là, quels enjeux il y a derrière soi. Récemment, je parlais de ça avec un couple dont la dame a comme grand enjeu de rendre son amoureux jaloux. Peut-être que justement son amoureux est un petit peu trop débonnaire. Il est vraiment, enfin moi je le vois extrêmement amoureux de sa femme, en adoration même devant cette femme qui est elle-même extrêmement belle, extrêmement brillante, mais peut-être justement un peu intimidante à ce point de perfection, un petit peu comme Carole Laure dans le film Trop belle pour toi, où Gérard Depardieu est en couple avec Carole Laure qui est magnifique mais qui est un peu intimidante, et donc il la trompe avec Josiane Balasko parce que c'est beaucoup plus rassurant comme relation. Et ici, donc, cette dame, elle a envie de sentir que son compagnon la désire, que son compagnon a envie de se battre pour elle, dans ce côté un petit peu viril comme ça, on va marquer son territoire. Et donc, elle a envie de le rendre jaloux. Et donc, c'est la motivation de vivre des expériences plurales. Elle a envie de faire l'amour avec un autre homme devant son mari pour susciter de la jalousie chez le mari. Personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincue de ce scénario-là. Et donc, j'essaye de travailler ça avec eux pour essayer d'éviter les problèmes qu'ils vont, à mon avis, rencontrer avec une motivation comme celle-là. Oui.
Donc, en tout cas, le mot d'ordre pour explorer ces fantasmes, c'est s'écouter, c'est les partager ou non, c'est les réaliser si on en a envie. C'est commencer ce... J'aime bien cette expression que tu utilises de voyage initiatique. Je trouve que ça correspond bien à ce que tu dis aussi également, Carole, sur la libido, sur cette énergie de vie. Elle est... On a toute la vie pour la réaliser, non ?
Et s'enrichir.
Et s'enrichir.
Ce mot s'enrichir de toutes les expérimentations qu'on fait dans la vie, parce qu'on change de métier, on s'enrichit, on apprend des nouvelles compétences. Et pourquoi on ne dirait pas que aussi dans la sexualité, on s'enrichit à chaque fois d'aller expérimenter, d'aller voir ce qui se passe autre part, et de gagner en assurance,
en connaissance, en confiance en soi,
en estime de soi.
Et ben, ce sera le mot d'ordre alors pour nos auditeurs, nos auditrices. Merci beaucoup, Annabelle Lee. Tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que je trouve que quand on appréhende la vie sexuelle sous cet angle-là, en fait, on est complètement à rebours, encore une fois, des clichés sociaux qui voudraient qu'on soit à l'optimum sa vie sexuelle quand on a 20-30 ans, qu'on est beau, jeune, plein de fougue, et puis qu'après, ce ne serait qu'une longue déchéance. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est tout le contraire. Justement, je pense qu'on peut justement monter en compétence, en intensité, en authenticité tout au long de sa vie. Et moi, j'adore les partenaires qui ont 20 ans de plus que moi parce qu'ils ont justement, en général, ils sont beaucoup plus libres avec eux-mêmes et ils ont des choses passionnantes à partager et à vivre. Et donc, c'est vrai que j'aime bien aussi le côté un petit peu anti-système, on va dire, de prendre en main sa vie fantasmatique, parce que, encore une fois, c'est échapper à ces carcans et à ces codes et à ces références qui nous sont imposées et qui nous plombent tellement.
Ben, merci beaucoup, Annabelle Lee, et à très vite pour un nouvel épisode.
Merci, Laura.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.